Madame, monsieur, votre attention, s'il vous plaît. Vous êtes dans le bon train avec moi, Simone, pour écouter Le Geek, c'est chic.
Bonsoir et bienvenue dans Le Geek, c'est chic, l'émission de pop culture sur D4B. Vous nous écoutez sur 90.4 FM dans le Pays Mérois ainsi que sur 101.1 dans le Nurtec. Vous pouvez aussi retrouver cette émission en direct sur Internet, sur le site de D4B et retrouver les émissions précédentes sur le Mixcloud et sur notre Facebook.
Bonsoir les amis et bienvenue dans notre nouvelle émission du Geek c'est chic. Comme on vous l'a dit la semaine dernière, on a fait quand même une grande pénigration à Angoulême et on a vu des auteurs. Et comme on vous l'a dit, les auteurs savent très bien parler de leur œuvre. Donc vous allez écouter certaines interviews qu'on a faites avec un grand plaisir et une de Riyad Satouf. On vous souhaite donc une très bonne écoute, une très bonne soirée sur nos ondes et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour des chroniques de livres qu'on a aimés. Alors je suis au Lombard, on est toujours en 51e édition du festival de la BD d'Angoulême. Je suis avec Thébaud qui nous a fait l'honneur déjà d'accepter cette interview. Te voilà sur un personnage iconique de la BD franco-belge, les Schtroumpfs. Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé dans la même forêt magique et enchantée?
Alors, c'est assez simple. C'était il y a 5 ans de ça, je crois. Mathias, qui est un des éditeurs du Lombard, m'avait contacté pour bosser sur la série principale des Schtroumpfs, mais pour aider un scénariste ou pour donner des idées de scénarios pour les Schtroumpfs. Amener du mon humour, entre guillemets, quoi. Et moi, j'avais pas le temps, je bossais sur Raoul et Captain Biceps à l'époque. Et donc, je lui ai dit non, j'ai pas le temps. Sauf que le lendemain, j'ai trouvé l'idée du Schtroumpf qui parle pas le Schtroumpf. Et là, c'est marrant d'avoir ce truc-là. Mais j'avais que ça comme idée, donc j'ai laissé tomber. Mais sauf que tous les ans, ça revenait, cette idée revenait et tout. Mais il y avait rien qui se déclenchait. Et puis, dans Spirou, il y a eu une carte de vœux avec tous les personnages de Spirou qui étaient iconiques. Et j'ai mon fils, maintenant à 10 ans, qui me demandait c'est qui ce personnage-là. Donc il y avait Natacha, tout ça, Sophie. Et à un moment donné, il y avait Johan et Pierre-Louis avec les Schtroumpfs. Et donc j'ai commencé à expliquer qui était qui. Et là, j'ai eu le déclic pour l'histoire. Je contacte aussitôt Mathias pour dire, tiens, il y a 4 ans, tu m'avais proposé pour écrire un scénar. Je l'ai. Enfin, j'ai une idée. Est-ce que t'es toujours intéressé? Il m'a dit, attends, on vient de monter une collection des Schtroumpfs vue par. Ça fait 15 jours qu'on en parle avec IMPS qui ont les droits des Schtroumpfs. Et il y a ton nom qui est sorti du chapeau parce que un des directeurs artistiques était fan de mon Mickey. Et donc, du coup, il dit, ce serait vraiment cool là, que tu fasses un truc. Quoi. Donc, ce serait bien que tu le dessines toi. Quoi. Donc, et c'est parti comme ça. C'est parti très rapidement.
Et comment s'est faite la genèse de cet album Tu as mis tout à l'heure, tu me disais 8 mois et demi de travail intensif et acharné.
Pareil, ça devait sortir en 2024 ce bouquin-là. Et j'ai demandé plusieurs fois au Lombard, vous êtes sûr, je peux sortir aussi en 2023, mais il faut me le dire avant. Et puis, à un moment donné, ils ont dit si, on va sortir en 2023 et ce sera pour l'anniversaire du Lombard. Et là, j'avais plus que 8 mois et demi pour faire le bouquin. Et heureusement, tout le CMCIF était validé. Donc, j'avais plus qu'à écrire le scénario et dessiner et en créer et mettre aux couleurs. Donc, voilà, c'était intensif, quoi.
Et tes autres séries, pendant ce temps-là, tu les mets sous le coude ou tu travailles un peu dessus?
Pas du tout. Là, j'avais pas du tout le temps. Fallait surtout... J'avais un autre projet aussi que j'ai toujours dans les cartons. Il y avait certains éditeurs qui me disaient tu nous parles de ton autre projet et tout. Je fais non, j'ai pas du tout le temps là de parler de quoi que ce soit parce que si je vous montre, ça va être vous allez me poser des questions et ça va me sortir de mon schtroumpf. Et là, j'étais vraiment immergé dans mon schtroumpf. Il fallait pas me parler de Raoul, de Captain Biceps, de quoi que ce soit. Donc j'étais vraiment concentré, quoi.
Et pour te plonger dans la création de cet album, est-ce que tu as relu les schtroumpfs ou est-ce que tu l'as fait plutôt de mémoire?
En fait, moi, j'ai jamais eu les albums des Schtroumpfs. J'ai toujours lu chez mes cousins ou mes copains. Et moi, j'étais aussi fan des dessins animés et surtout des figurines des Schtroumpfs. Je les collectionnais et tout. Et j'inventais beaucoup d'histoires avec les Schtroumpfs. C'est pour ça, en fait, j'ai un peu la blague. J'ai dû écrire plus d'histoires que Peyo parce que j'ai dû écrire, moi, 1500 histoires de Schtroumpfs avec mes jouets. Et, Et en fait, j'ai demandé à Lombard de m'envoyer les 10 premiers albums des Schtroumpfs, ceux que j'avais lus quand j'étais gamin, en fait. Et ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, je me rappelais de plein de choses. Mais avant de les lire, j'avais commencé à écrire beaucoup de gags et de situations de Schtroumpfs. Et je me trouvais vraiment au top. Je disais, putain, ce que j'ai écrit, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment moderne. Je suis vraiment le renouveau pour les Schtroumpfs. Et sauf que quand j'ai reçu les albums, il y a tous les gags, c'était déjà écrit par Peyo et aussi, comment ça s'appelle, Yvan Delporte, qui écrivait aussi des Schtroumpfs. Et voilà, il y a plein de gags, des jeux de mots et tout ça. Donc j'ai dit, c'était beaucoup plus moderne que moi. Et donc voilà, après j'ai pu retravailler mes idées. J'ai demandé surtout à Mathias de contrôler tout ce que je faisais pour pas qu'il y ait une répétition ou un truc qui était dans un des albums. Et il y avait cette histoire aussi de Schtroumpf qui ne parle pas le Schtroumpf. Je me suis dit, bon, c'est une idée originale et tout. Et en fait, il l'avait fait aussi avant moi. Il l'avait fait dans L'œuf et le Schtroumpf avec Gargamel qui avait bu une potion et qui se transforme en Schtroumpf et qui ne parle pas et qui ne comprend pas le Schtroumpf. Et lui, il avait une queue en bois parce qu'il n'avait pas de queue, le Gargamel. Et du coup, j'ai dit, j'ai failli abandonner le projet, parce que je dis à Mathias, laisse tomber, c'est mort, quoi, c'est déjà fait, je vais pas faire un truc qui est déjà fait. Et coup de bol, enfin, je me suis dit, attends, je vais l'intégrer directement dans le bouquin, je vais l'intégrer au bout de la troisième page, et voilà, c'est parti comme ça, et puis je me suis dit, il y a toujours les collectionneurs qui connaissent les histoires par cœur, il fallait absolument que je l'intègre au tout début de l'histoire, parce que sinon j'allais me faire sauter dessus, par eux, et donc voilà, donc j'étais content de ça.
Donc cette fois-ci, alors tu as eu Mickey, les Schtroumpfs, quel autre personnage iconique de la bande dessinée t'aimerais pouvoir réaliser ces aventures ?
Alors, c'est pas que j'aimerais, c'est que je vais sûrement faire. Donc là, j'ai fini la méthode Raoul tome 2, là je suis en train d'attaquer un donjon parade avec Lewis Trondheim et Soir au scénario. Donc ça y est, tout est validé, les contrats sont signés, donc j'attaque ça devrait sortir en janvier 2025. Et après, normalement, je devrais attaquer un Batman avec Urban et DC Comics, parce que maintenant, c'est DC aussi qui contrôle le truc. Et ce serait un truc humour, mais pas une parodie. Parce que c'est venu aussi surtout avec les interviews avec des Schtroumpfs, où les journalistes me disaient « Ah, c'est un peu une parodie, ton album ». Je dis « Non, pour moi, c'est un vrai album de Schtroumpfs. Je me moque pas des Schtroumpfs, c'est mon humour à moi. Et donc je me suis dit, Batman, si je fais un truc rigolo, ça va être forcément une parodie. Et j'ai dit non, il faut que je contourne ça. Moi, j'ai pas envie de faire une parodie de Batman. Si je fais une parodie, je le fais dans Captain Biceps, je fais démonter la gueule. Enfin voilà. Là, je vais faire un vrai Batman et je vais mettre un personnage humoristique avec lui pour amener l'humour. Quoi. Je bosse dessus en même temps. Quoi. Ça a l'air d'avancer, c'est pas mal.
Et comment t'as eu. Comment t'as pu avoir Batman, je veux dire
Grâce à l'alcool. Donc c'est en fait un des directeurs de chez Urban Comics qui m'avait croisé, c'était en 2017, après Mickey. En fait, le Mickey m'a ouvert pas mal de portes. Il avait un joli succès public, mais il a surtout un succès critique, et surtout avec les auteurs de BD et autrices, et les éditeurs et tout ça qui venaient me voir, justement grâce au Mickey. Quoi. Ça m'a ouvert pas mal de portes. Et lui, il est venu me voir. En fait, je connaissais sa femme, qui est dessinatrice, qui était enceinte. Et il allait avoir un bébé, donc il était heureux comme tout. Et il était venu me l'annoncer, mais on ne se connaissait pas. Et puis moi, je pensais que c'était un auteur. Et puis il m'a dit, non, je suis éditeur chez Urban Comics. Donc moi, je lui dis, je suis ultra fan d'Urban Comics, je suis un fan de Batman et tout. Et là, on a sympathisé. Puis il m'a dit, ce serait bien, ces quatre qu'on bosse ensemble. Et quelques mois après, il m'a dit, écoute, j'ai tout le catalogue de DC. Tu pioches dans ce que tu veux. Si tu veux faire Wonder Woman, Superman, Batman, c'est porte ouverte. Et donc j'ai dit Batman. Et voilà, donc j'ai commencé à bosser à des idées. Et puis après voilà, il y a eu plein de boulot entre deux, donc j'ai pas attaqué Batman. Warner Bros a viré des gens à une époque, et donc l'Europe n'avait plus de contact avec pour monter des projets justement avec Batman et tout. Donc du coup, c'était tombé un peu à l'eau. Et là, j'ai revu justement l'éditeur de Urban Comics. Et il m'a dit, attends, on peut relancer le truc. DC Comics est à fond pour rebosser avec les Européens. Et puis voilà, donc ils ont balancé un peu mes deux, trois idées que j'avais. Et ils ont dit aussi que j'avais bossé sur Mickey et sur les Schtroumpfs. Donc voilà, ça les a rassurés que je puisse bosser sur un Batman. Donc voilà.
C'est royal quand même.
Ah ouais. Non, je suis heureux comme tout, quoi. Donc, moi, un de mes premiers projets, quand j'avais 22 ans, c'était des parodies de Batman, justement. Et donc, ce serait marrant de voilà, que la boucle soit bouclée, je finis ça. Pareil pour les Schtroumpfs. Moi, les Schtroumpfs, j'ai gardé ma figurine du Schtroumpf grognon. Et c'est ce qui m'a permis de bosser sur ma première série qui s'appelle Samson et Néon. Avec un petit garçon et l'extraterrestre, et j'avais pris la même morphologie que cette figurine là donc en fait c'est, j'ai un peu les bases de mon dessin qui est très rond. C'est aussi un peu Peyo qui l'a donné, quoi, avec son ancrage de plein et délié. J'avais Gottlieb aussi qui bossait à la plume, et j'ai gardé en fait cet ancrage aussi, quoi, et ce dessin très rond.
Donc du Batman. Et si tu avais quelqu'un d'autre à croquer?
J'aimerais bien faire Astérix. Après, il y a des trucs, tu te poses pas la question, quoi. Le coup de Batman, à un moment donné, j'avais eu des questions de journalistes sur le est-ce que c'était un rêve de gosse de reprendre les Schtroumpfs, et j'avais dit non, quoi. Mais parce que quand t'es gosse, tu te poses pas la question de dire un jour je vais reprendre les Schtroumpfs ou Astérix ou Spider-Man. Pour toi, c'est impossible, quoi. Donc, et c'est, j'attends en fait que l'éditeur en parle. Fait, au fait, ce serait pas mal que tu fasses un Schtroumpf. Bah, je me suis jamais posé la question. Et justement, quand il y a eu le bouquin qui est sorti des Schtroumpfs, là, il y a eu l'éditeur m'a dit au Lombard, il m'a dit que plein d'auteurs et autrices sont venus les contacter pour dire hey, on a vu le Schtroumpf de Thébault, nous aussi on veut en faire, on savait pas qu'on avait le droit, bah là on veut, quoi. Donc pareil pour Mickey, quoi. Toi, une fois que c'est, il y en a quelques-uns qui le font, hop, ça part comme ça, quoi. Donc parce qu'on pense que c'est pas possible, quoi. Donc voilà.
Mais écoute, merci beaucoup, merci à toi.
Bah ouais, super. Puis à la prochaine.
À bientôt.
Salut, c'est Thébault, je suis l'auteur de Qui est ce Schtroumpf, et vous écoutez Le Geek, c'est chic.
Toujours au 51e festival de la BD d'Angoulême, au stand Le Lombard, je suis avec Eléa Bird, autrice de Vierge, la folie de la virginité. Comment ça va?
Bonjour, ça va très bien. Il y a plein de monde, il fait chaud, mais c'est super.
Dis-moi, peux-tu nous parler de la genèse de cet album?
Alors, c'est le thème de la virginité a été amené par notre éditrice, Élise Haroux, qui en fait a fait le matchmaking entre moi et Élise, donc Élise Thiébault, la scénariste. Moi, je connaissais déjà le travail d'Élise par ses essais. J'avais lu entre autres « Ceci est mon sang » qui parle des règles, et j'aimais déjà beaucoup sa façon d'aborder les choses. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Surtout que c'est le type d'album où je me suis dit c'est quelque chose que j'aurais bien aimé lire quand j'étais ado. C'est encore quelque chose qui m'intéresserait de lire maintenant si je le voyais en librairie. Donc voilà, j'ai dit oui tout de suite.
Et comment s'est fait cet album? Déjà, c'est des mini-scènes. Comment il s'est composé? Comment vous travaillez avec Élise?
Alors, du coup, l'album est découpé par chapitres thématiques, mais qui s'articulent entre eux. On a travaillé un petit peu en même temps, quelque part, parce que Élise a commencé à écrire, alors il me semble, les deux ou trois premiers chapitres au début. Et c'était aussi histoire de voir comment est-ce qu'on s'organisait toutes les deux, parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Et en fait, on travaille d'une façon qui n'est pas forcément la manière dont on fait d'habitude en BD. Enfin, ça dépend des gens, mais en fait, Élise écrit le texte sans découpage, donc elle ne va pas me dire par exemple dans telle case il se passe ça, telle page il y a ça. C'est vraiment le texte brut et c'est moi qui fais la mise en scène ensuite. Et c'est super agréable de travailler comme ça. Mais du coup, ça fallait qu'on teste un petit peu sur le premier chapitre pour voir ce que ça donnait. Et ça a très bien marché tout de suite, c'était très agréable. Donc on a continué avec Élise qui écrivait les chapitres suivants pendant que j'avançais sur ceux qui étaient déjà rédigés.
Et le format, c'est vous qui l'avez choisi ou c'est l'éditeur qui a défini le type de format ?
Le type de format, on en a discuté au début. J'avoue que je ne sais même plus exactement. Il y avait un autre album qui était déjà sorti, donc c'est pas vraiment une collection, mais en tout cas chez Le Lombard, qui avait le même type de format, et ça nous paraissait sympa d'avoir quelque chose qui était pas trop grand, en fait, qui se feuillette facilement, qui en même temps laisse quand même la place au dessin aussi à l'intérieur.
Est-ce qu'il y aura une suite ou est-ce que c'est un one shot, un début, une fin? Élise, vous venez d'arriver, dites-moi tout.
On l'a envisagé un peu assez vite avec Eléa comme une série et qui porterait sur les grandes étapes, le mariage, la maternité, tout ça sur un plan anthropologique et puis la ménopause, parce que je viens de terminer un essai sur la ménopause qui va sortir en mars. Et voilà, c'est une chose qu'on a pour l'instant dans nos rêves et qu'on espère voir devenir réalité, mais il n'y a aucune certitude encore.
Est-ce que de passer, de faire des essais et de passer entre un scénariste de bande dessinée, l'exercice est différent ou est-ce que ça vous amuse de pouvoir travailler sur un scénario brut ?
Alors en fait, j'avais déjà expérimenté ça avec mon livre sur les règles qui avait donné lieu, non pas à une adaptation, mais également à une publication pour ados publiée à La Ville Brûle, Les règles, quelle aventure. Et j'avais déjà écrit plusieurs essais documentaires à destination des ados chez Syros. Donc j'avais l'habitude, en tout cas, de m'adresser à un public plus large, jeune, etc. C'était quand même un niveau au-dessus avec Eléa, c'est-à-dire qu'on est allé plus franchement dans la BD, mais je dois dire que la collaboration a été si fluide et si facile qu'en réalité, ça n'a présenté aucune difficulté. J'ai écrit le texte en m'efforçant d'emblée de le rendre très imagé, c'est-à-dire que je m'appuyais sur des personnages, sur des histoires permettant de mettre en scène les idées et non pas les idées elles-mêmes, autant que faire se peut. Et puis, on avait créé ce personnage inspiré du mois de mes 14 ans, qui servait de fil rouge, si bien qu'en réalité, ça a été moins difficile. Et puis, Eléa avait une telle facilité à proposer son storyboard derrière, sur lequel on n'a quasiment jamais rien modifié. Elle a amené tout son univers et toutes ses blagues qui permettaient de synthétiser des idées parfois complexes avec beaucoup d'humour et de délicatesse. Donc en fait, ça a été vraiment facile.
Et votre façon de travailler, c'est vous voyez ou c'est que par mail ?
Alors on se voyait en visio parce que on n'habite pas dans la même ville. J'habite en Camargue et Léa à Lyon. Donc on s'est vu une ou deux fois, mais on avait déjà bien commencé le travail. Donc on avait des réunions régulières en visio et avec Elisa Roux, l'éditrice, Effectivement, ensuite, on a travaillé par mail. J'ai envoyé le texte, j'ai envoyé en plusieurs morceaux pour voir si c'était validé pour elle. Et puis ensuite, on échangeait assez facilement.
Ça a l'air d'être une belle rencontre, toutes les deux.
Oui, complètement. Bah, on s'est souvent dit qu'en fait, c'était rare de s'entendre aussi bien en fait, et que ce soit aussi fluide, parce que j'attendais nos visios justement avec impatience à chaque fois. Je me disais, ah chouette, et c'est pas forcément toutes les réunions de travail, parce qu'on se dit, c'est super cool, j'ai une réunion de travail aujourd'hui. Et je pense qu'on se complète assez bien, je pense. La façon d'écrire d'Élise est vraiment très évocatrice, donc j'ai tout de suite des images qui me viennent quand je lis son texte, que j'ai toujours grand plaisir à découvrir. Et il n'y a pas de moment où je me suis dit je cale un peu, je ne sais pas du tout comment mettre cette partie en scène, par exemple. C'est toujours venu très naturellement. Et c'est super.
Et quel est le ressenti de vos lecteurs? Est-ce que vous avez eu des séances de dédicaces? Est-ce que vous avez eu quelque chose où les personnes étaient super contentes de vous l'apporter?
Alors, il vient à peine de sortir, donc c'est vraiment difficile à dire. Et Léa, qui a fait plus de dédicaces que moi, parce que dans un festival comme la BD, il est sorti le 19 janvier, ce sont vraiment les dédicaces des dessinateurs et dessinatrices qu'on vient chercher. On peut s'appuyer néanmoins sur les réactions qu'on observe sur les réseaux sociaux, qui sont enthousiastes. C'est très touchant de voir à quel point ça a touché très vite un public conquis assez jeune ou moins jeune d'ailleurs, mais en tout cas il y a une partie du pari qui semble avoir atteint son but.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Madame, monsieur, votre attention s'il vous plaît. Vous êtes dans le bon train avec moi, Simone, pour écouter Le Geek, c'est chic.
On est à la 51e édition du Festival de la BD d'Angoulême au studio SNCF. Je suis avec Alexandre, le responsable de cette bulle, de ce studio. Salut, comment vas-tu ?
Eh ben, très bien, merci à toi.
Alors dis-moi, qu'est-ce que le studio SNCF ?
Alors, le studio SNCF, c'est la bulle de culture du festival qui est ouverte à tous les angoumoisins et les festivaliers, qui est entièrement gratuite, dans laquelle on peut venir se poser librement, découvrir les BD de la sélection officielle du Fauve Polar SNCF Voyageurs, et puis découvrir toute la programmation riche que nous avons mis en place pour 4 jours, avec des rencontres auteurs, des duels de dessin avec des dessinateurs, des webtooneuses. Nous avons aussi Simone, la voix mythique de la SNCF, qui vient faire une lecture en musique d'une BD samedi. Nous avons un DJ avec des blind tests, il y a plein de cadeaux à gagner, des grands quiz. Voilà, en gros, il y a énormément de choses et on fait partie de la programmation officielle du festival.
Et dans cette programmation, est-ce qu'il y a une BD que tu ressens plus ou qui te parle plus ou tu les trouves tout aussi géniales ?
Alors effectivement, j'ai un avis personnel sur les BD de la sélection. J'ai une préférence pour Je suis leur silence. Je ne sais pas si c'est la BD qui sera lauréate cette année, mais le trait de dessin et le personnage principal est vraiment attachant, sympathique, et je trouve que c'est un véritable polar. Donc j'ai une préférence.
Bah écoute, merci beaucoup.
La SNCF et le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, c'est 18 ans d'amour. En 2024, voilà, on fête notre 18e année de partenariat, notre 13e Fauve Polar SNCF Voyageurs. Et on est très fiers chez SNCF Voyageurs d'accompagner les Français dans leurs déplacements dans les territoires sur de grands événements festifs et populaires comme le Festival de la BD qui a placé Angoulême quand même sur la carte du monde. C'est l'un des plus gros festivals de BD au monde, le deuxième si je ne m'abuse, le premier d'Europe. Donc on est très fiers d'accompagner les Français dans leurs déplacements et surtout nous sommes très fiers d'être la seule alternative écologique à la voiture pour se rendre au festival, puisque nous avons 3 transporteurs qui accompagnent les voyageurs, TGV Inouï, Ouigo et TER. Voilà. Et au-delà de ça, nous accompagnons les Français dans leur passion, puisque nous sommes ouverts sur le polar, avec notre prix Fauve Polar SNCF Voyageurs, et sur le manga, puisque les Français sont les deuxièmes plus gros consommateurs de manga au monde. Avec plaisir.
Je suis avec Riyad Satouf, qui a eu une très jolie exposition, très 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 belle. Comment ça va ?
Ça va très très bien.
Alors j'ai pu voir dans cette expo, ça parlait de vos films, de l'Arabe du futur et aussi de votre chambre. Et dans votre chambre, il y a quelque chose un petit peu particulier que j'apprécie énormément qu'on le montre. Vous êtes fan de Slayer et de Dave Lombardo.
Slayer, ouais, bien sûr, évidemment. Bah, c'était impossible de parler de l'adolescence sans parler de musique et, en ce qui me concerne, de parler de métal. Donc voilà, et c'est présent dans l'Arabe du futur et donc je suis un énorme fan de Slayer et de Dave Lombardo. Enfin, je les aime tous, même s'ils ne s'aimaient pas vraiment entre eux tous, mais moi je les aime bien quand même. Mais c'est pas vraiment moi qui ai choisi de les mettre en exergue comme ça, c'est la scénographie, mais j'étais très content en fait, c'était super. En plus, ils diffusent The Antichrist.
Exactement.
Et alors vraiment, moi, si je peux vraiment faire la pub pour le diable, je suis hyper content. The Antichrist, l'une des meilleures chansons de Slayer, vous pouvez la diffuser d'ailleurs après.
Juste après, on la diffusera après l'interview.
Et c'est top. Bah voilà.
Et comment s'est faite cette exposition ? Vous avez lancé des idées ou ils vous ont présenté le projet déjà tout fait ?
Non, alors quand on est Grand Prix, en fait, on est élu par les autres dessinateurs, donc ça fait hyper plaisir et en même temps c'est anxiogène parce qu'il y a une espèce de... c'est comme si c'était quelque chose de final, je sais pas comment. Alors je voulais absolument pas que ce soit une rétrospective ou un truc comme ça parce que je suis encore jeune et donc j'ai proposé de faire une expo sur l'Arabe du futur qui est la bande dessinée que j'ai faite pour les lecteurs qui lisent pas, enfin qui connaissent rien à la BD, et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de faire une expo de BD pour des gens qui connaissent rien aux expos de BD ou à la BD. Et donc j'ai proposé à Caroline Brouet qui est journaliste de s'occuper d'être la commissaire, et donc elle connaît pas très très bien la BD, enfin pas très très bien, elle adore la bande dessinée mais elle n'est pas dans le milieu BD, et donc elle a ouvert le champ sur d'autres domaines et j'ai trouvé ça super, je l'ai laissé faire quand même, vraiment.
Alors ce qui était assez étonnant, c'est d'entendre, parce que moi quand j'ai vu l'expo, c'était du Nirvana qui passait, avec du Slayer et du Juliette Je t'aime, c'est quand même un sacré cocktail d'étonnant.
Et oui, et du Bernard Minet surtout, il faudrait peut-être préciser car c'est l'interprète de la chanson Juliette Je t'aime. Eh bien oui, voilà, c'est un joyeux mélange de tous nos plus beaux souvenirs des années 90, et donc il y a aussi Still Loving You de Scorpion, voilà. Donc il faut absolument venir voir cette expo, vous le regretterez pas.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Et donc on écoute tout de suite The Antichrist de Slayer.